Chapitre 8. Conversation émouvante de Louison et du capitaine Corcoran avec le colonel Barclay. Le colonel Barclay, qui faisait ce jour-là les fonctions de brigadier général, était l'un des plus braves officiers de toute l'armée des Indes. Il avait gagné fort péniblement tous ses grades et n'avait jamais cessé, soit en paix, soit en guerre, d'être employé dans les missions les plus difficiles. Tantôt commandant un régiment sur la frontière, tantôt surveillant, avec le titre de résident, les démarches, le gouvernement et les préparatifs des princes tributaires de la compagnie comme Holkar, il possédait la confiance des soldats et il connaissait à fond tous les ressorts de la politique anglaise dans l'Inde. Mais, n'étant frère, oncle ou fils ou neveu d'aucun des directeurs de la compagnie, il ne recevait que les missions rebutantes ou périlleuses. C'est à ce titre qu'on l'avait chargé d'attaquer Holkar. S'il réussissait, on tenait tout près un général de parade, bien apparenté, qui devait venir prendre le commandement de l'armée et recueillir le fruit de la victoire de Barclay. De là, chez le colonel, une mauvaise humeur continuelle et un juste ressentiment contre les favoris de la très haute et très puissante Compagnie des Indes, qui ne l'empêchait pas néanmoins de remplir rigoureusement tous ses devoirs militaires. Lorsque John Roberts entra dans sa tente, le vieux Barclay se retourna et dit « Qu'y a-t-il de nouveau, Roberts ?»« Nous avons fait une capture importante, colonel. C'est un Français qui est, je crois, l'espion d'Holkar. » « C'est bien. » Faites entrer. Mais, dit Roberts, il n'est pas seul. C'est bien, faites entrer aussi les autres et mettez deux factionnaires à la porte de la tente. Mais, colonel, faites ce que je vous dis et ne répliquez pas. Après tout, pensa Roberts, puisqu'il ne veut pas entendre mes explications, c'est son affaire. Et faisant signe à Corcoran, entrez, dit-il. Corcoran entra, précédé de Louison qui, sur un geste, alla se coucher à ses pieds. Elle était cachée par la table qui séparait Corcoran du colonel Barclay. Celui-ci, le dos tourné, affectait de ne pas voir et de ne pas entendre Corcoran. Par suite de cette affectation, il ne s'aperçut pas de la présence de Louison. Il y eut un instant de silence. Corcoran, voyant que le colonel ne lui parlait pas et ne lui disait pas de s'asseoir, s'assit, sans y être invité, prit un livre sur la table et feignit de lire avec attention. Enfin, Barclay s'aperçut que le prisonnier n'était pas de ceux qu'on intimide aisément, et se retournant vers lui, « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix brève. « Français. Votre nom ?»« Corcoran. Votre profession ?»« Marin et savant. » »« Qu'appelez-vous savant ?»« Je cherche le manuscrit des lois de Manou pour le compte de l'Académie des sciences de Lyon. » »« Où alliez-vous quand on vous a rencontré ?» À la recherche d'une jeune fille qu'un brigand a enlevée à son père. Est-ce une indienne ou une anglaise? C'est la fille d'Holkar, le prince des Marathes. Le colonel Barclay regarda Corcoran d'un œil défiant. Quel intérêt prenez-vous aux affaires d'Holkar? Demanda-t-il. Je suis son hôte, répondit Corcoran d'un ton ferme. Bien, dit Barclay. Avez-vous quelques papiers qui vous recommandent? Corcoran tendit la lettre de Sir William Barolinson. « C'est bien, » dit Barclay après l'avoir lu. « Je vois que vous êtes un gentleman. Vous pouvez rassurer Holkar sur le sort de sa fille. Elle est dans mon camp. Raoul y a conduite il y a 2 heures à peine. C'est un otage précieux pour nous. Mais on ne lui a fait, et on ne lui fera, aucun mal. L'honneur de l'armée anglaise en répond. D'ailleurs, Raoul lui-même la respecte, car il doit l'épouser. C'est le prix de son concours. Dites plutôt de son infâme trahison. Comme il vous plaira, je ne tiens pas au mot. Et maintenant, monsieur Corcoran, si vous voulez voir vous-même la belle Sita et annoncer à son père qu'elle est saine et sauve et dans des mains loyales, je ne m'y oppose pas, je vais la faire appeler. Je n'osais pas vous le demander, colonel, et je vous remercie de me l'avoir offert. Le colonel frappa sur un gong. John Roberts parut aussitôt. Il attendait avec impatience et curiosité la fin de l'entretien. Il fut très surpris de voir Corcoran paisiblement assis près de la table, en face du colonel, et Louison, entre les deux, caché au colonel par le tapis qui recouvrait la table. Roberts, dit Barclay, allez chercher Miss Sita et amenez-la ici avec tous les égards qu'un gentleman anglais doit à une dame de la plus haute naissance. Mais, colonel, répondit Roberts, qui voulait prévenir Barclay de la présence de Louison, vous n'êtes pas encore parti, monsieur? Dit Barclay avec un flegme hautain. Roberts, forcé d'obéir, sortit la tête basse. Vous ne connaissez pas la vallée de la Nerbuda, monsieur? Demanda Barclay du ton d'un touriste qui vante la beauté d'un paysage. C'est un pays enchanteur. On y trouve des sites mille fois plus beaux que dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Vous pouvez m'en croire, monsieur, car j'y ai vécu 9 ans, sans autre société que les pierres des montagnes et les espions qui me rendaient compte de toutes les actions d'Holkar. Ah, monsieur, quel ennuyeux métier que celui de recevoir, d'analyser, de classer et d'apprécier des rapports de police. Si vous êtes un peu géologue comme moi, êtes-vous géologue? Non. Tant pis. La géologie, c'est ma passion favorite. Ah, si vous aviez été géologue, quelle bonne partie nous aurions faite ensemble dans 8 jours, car il ne me faudra pas plus de 8 jours pour renverser Holkar. Cela vous contrarie peut-être à cause de votre amitié pour lui. Bon, c'est bien, n'en parlons plus. J'espère, monsieur, que vous me ferez l'honneur de dîner aujourd'hui avec moi. Corcoran s'excusa de ne pouvoir accepter cette invitation. Bon, vous craignez de faire un mauvais dîner, je vois ce que c'est. Mais rassurez-vous, nous avons d'excellents vins de France, des pâtés de France, des puddings d'Angleterre, et tout ce que le globe terrestre produit de délicat et d'exquis pour le plaisir des gentlemen. Allons, est-ce dit? Colonel, dit Corcoran, je regrette de ne pouvoir accepter une offre si cordiale, mais je suis pressé de rassurer Holkar. Rassurer Holkar, cher monsieur, vous n'y pensez pas. Je vous tiens, je vous garde. Vous écrirez à Holkar, cela suffira. Croyez-vous que je vais vous laisser retourner dans le camp ennemi, après que vous ayez vu le mien? Je vous rendrai la liberté quand nous aurons pris Bhagavapur. Et si vous ne le prenez jamais, colonel? Demanda Corcoran, qui commençait à s'indigner d'être traité en prisonnier de guerre. Si nous ne le prenons jamais, répliqua le colonel, eh bien vous n'y rentrerez jamais, c'est moi qui vous le dis. Quand l'Académie des sciences de Lyon et toutes les académies qui sont sous le soleil devraient renoncer à lire le manuscrit des lois de Manu. Colonel, dit Corcoran, vous violez les droits des nations. Plaît-il? Demanda Barclay. Au même instant, Sita parut, et sa présence apaisa la querelle, qui commençait à devenir très vive. Ah! S'écria-t-elle en regardant Corcoran avec des yeux pleins de joie. Je savais que vous viendriez me chercher jusqu'ici. Cette première parole remplit d'une joie immense le cœur du capitaine Corcoran. C'est donc sur lui qu'elle avait compté, c'est de lui qu'elle attendait son salut. Mais ce n'était pas le moment de s'expliquer. D'ailleurs, Corcoran craignait à tout moment que l'entrée de Roberts ou de quelque autre importun de l'état-major n'empêchât l'exécution du projet de délivrance qu'il venait de combiner. « Colonel, dit-il enfin, vous refusez de me rendre la liberté. »« Je refuse, dit Barclay. » Vous gardez contre toute justice la princesse Sita, enlevée à son père par un coquin dont vous voulez faire son mari. Vous m'interrogez, je crois, dit Barclay d'un air hautain, et il avança la main pour frapper sur le gong. Eh bien donc, cria Corcoran en se levant, qu'il en soit ce que le ciel aura décidé. Et avant que Barclay eût pu appeler personne, Corcoran saisit le gong, le mit hors de portée, tira de sa poche un revolver, et couchant en joue le colonel, il s'écria. Si vous appelez, je vous brûle la cervelle. Barclay se croisait les bras d'un air de mépris. Ai-je affaire à un assassin? Dit-il. Non, répliqua Corcoran. Car si vous appelez, je serai tué. Et dans ce cas, c'est moi qui serai l'assassiné et vous qui serez l'assassin. Ce sont deux rôles également fâcheux. Faisons un traité, si vous voulez. Un traité? Dit Barclay. Je ne traite pas avec un homme que j'ai reçu en gentleman, presque en ami, et qui m'en récompense en menaçant de m'assassiner. « Encore ce mot-là, colonel ?» dit Corcoran. « Eh bien, ne faisons aucun traité, aussi bien n'en ai-je pas besoin. Debout, Louison. » À ces mots, la tigresse se leva et se montra pour la première fois aux yeux étonnés de Barclay. Mais l'étonnement fit bientôt place à la frayeur. « Louison, » continua Corcoran, « tu vois bien, monsieur le colonel, s'il fait un pas hors de la tente avant que la princesse et moi soyons en selle, je te le livre. » La menace de Corcoran était fort sérieuse, et Barclay le voyait bien. Il se décida à capituler. « Enfin, que voulez-vous » demanda-t-il. « Je veux, dit Corcoran, qu'on amène ici vos deux meilleurs chevaux. Nous monterons à cheval, la princesse et moi. Quand nous aurons dépassé les limites du camp, je sifflerai. À ce signal, la tigresse viendra me rejoindre, et alors vous serez libre de lancer sur nous toute votre cavalerie, y compris monsieur le lieutenant John Roberts du 25e de Hussards, avec qui j'ai un petit compte à régler. Est-ce une affaire convenue ?
C'est convenu, dit Barclay.
Et ne comptez pas manquer impunément à la foi jurée, ajouta Corcoran, car Louison, qui est plus intelligente que beaucoup de chrétiens, s'en apercevrait tout de suite, et vous étranglerait en un clin d'œil.
Monsieur, dit Barclay avec hauteur, vous pouvez avoir confiance dans l'honneur d'un gentleman anglais.
Et en effet, sans quitter sa tente, il ordonna à Robert de faire seller, brider et amener deux beaux chevaux. Il regarda Corcoran et cita à se mettre en selle, reçut d'un air impassible le salut d'adieu qu'ils lui firent, et attendit patiemment que le coup de sifflet eût retenti. Mais alors, et aussitôt que Louison, qui faisait des bonds prodigieux et qui épouvantait tout le camp, eut pris le même chemin que Corcoran, il cria
« 10 000 livres sterling pour celui qui me ramènera cet homme et cette femme vivant !»
À ces mots, tout le camp fut en rumeur. Tous les cavaliers se hâtèrent de brider leurs chevaux sans prendre la peine de les sceller, de peur de perdre du temps. Quant aux fantassins, ils couraient déjà sur la trace des fugitifs et semblaient avoir des ailes. Seul le lieutenant John Roberts, tout en bridant son cheval comme les autres, hasarda cette remarque séditieuse. « Pourquoi donc le colonel Barclay les a-t-il laissés fuir s'il tenait tant à les reprendre ?» À quoi le colonel répliqua en infligeant à l'orateur des arrêts d'un mois. « C'est bien fait. Quand le chef a fait une sottise, c'est au subordonné de se taire. Il est toujours dangereux d'avoir plus d'esprit que son chef. »